« Je travaillerai, » dit-elle. Pour payer les 18 francs qu'elle devait à Madame Ruider, elle engagea au Mont-de-Piété ses quelques bijoux. Pendant plusieurs jours, elle ne put que pleurer sur son lit ou sur sa malle, qu'elle avait faite sans savoir pourquoi. Une fille publique, Blanche Capiot, qui demeurait en face, essayait de la consoler. « Vous n'avez qu'à me suivre le soir, vous ne manquerez pas d'argent. » À la pensée de se mêler au troupeau de femmes en cheveux qu'elle avait vu, le premier soir de son arrivée à Bruxelles, faire les 100 pas sous le réverbère de la place de la Constitution, elle sentait son cœur se soulever de dégoût. Chaque matin, elle lisait attentivement dans les journaux la rubrique « Offre d'emploi ». On ne demandait que des bonnes de 18 à 20 ans, des ménages, jardiniers et cuisinières, et des dactylographes. Elle écrivit à plusieurs adresses de négociants à initiales, qui promettaient 10 francs par jour pour travail facile, n'exigeant aucun apprentissage. Les réponses qu'elle reçut la découragèrent. Il s'agissait du coloriage de cartes postales, de tricotage à la machine, et avant tout de l'achat du matériel nécessaire. Un jour, elle se crut sauvée. « Homme âgé demande dame de compagnie, jeune, sachant tenir un ménage. Bon gage !» Elle courut à l'adresse indiquée, craignant de n'être pas trouvée assez distinguée. Un domestique goguenard l'introduisit dans un salon où un vieillard au visage blêt, aux yeux de lapin mort, assis dans un fauteuil, roulé dans une robe de chambre, somnolait. Timide, elle se tenait devant lui, qui la détaillait avec une curiosité rustaude. Parfois il faisait « crrr, crrr » comme s'il eût avalé une arête. « Vous venez pour « crrr, crrr »
Oui, monsieur.
Je crois que crrr, nous nous entendrons.
Elle baissa les yeux pour dissimuler un regard joyeux.
Vous savez faire crrr, la cuisine?
Oui, monsieur.
Un peu de couture?
Oui, monsieur.
Laver?
Mais je croyais que vous demandiez
cirer?
Une dame de compagnie?
30 francs par mois. Crrr.
Mais la compagnie, crrr, c'est pour la nuit. Crrr. On ne fait qu'un lit ici. Crrr.
Ça vous va?
Le sang lui monta si violemment au visage qu'elle crut avoir été giflée. Elle suffoquait, puis se planta devant le vieux apeuré qui remuait lourdement ses pattes, comme un hanneton sur le dos.
« Cochon ! Vieux cochon !»
Elle sortit, aveuglée par les larmes. Si elle pouvait entrer comme marcheuse dans quelque théâtre, elle passa plusieurs jours en humiliantes démarches. 40 sous par séance. On fournit son rouge et ses maillots, égard aux amendes. C'était la prostitution déguisée. Elle venait de rentrer dans sa chambre, navrée de ne pouvoir gagner un morceau de pain propre, lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années, correctement vêtu, demanda à lui parler. Il la conduisit dans un bar voisin. Il avait appris qu'elle désirait se lancer au théâtre, et l'en félicita. Avec son joli visage, sa taille fine, sa diction pure, elle réussirait certainement dans la comédie, à condition de ne pas aborder tout de suite les grandes scènes de la capitale. Si elle voulait signer un engagement pour un théâtre de Buenos Aires, il lui assurait pour ses débuts 300 francs par mois, et payait d'avance. Tentée par le voyage et les 300 francs, elle fut sur le point de signer, puis demanda quelques heures de réflexion et partit trouver Blanche Capiot. Celle-ci ne lui laissa pas achever son récit. Elle la saisit par le bras et lui cria, comme si elle la sauvait d'un danger immédiat, « C'est le marchand de bidoche !» Elle expliqua à Angèle épouvantée que cet individu faisait la traite des Blanches et qu'il la destinait à une maison publique de Buenos Aires. « Sortez le soir avec moi, c'est l'affaire d'une semaine pour s'y mettre. » Madame Ruider s'employa à la faire embaucher comme femme de ménage chez une cabaretière du boulevard Jamard. Elle était nourrie et recevait 20 sous par jour. Les travaux de couture et de raccommodage ne l'ennuyaient pas trop. Mais c'est elle qui devait laver à grande eau les escaliers et la salle de débit. Être obligée de plonger ses mains dans l'eau sale, d'empoigner la loque et de la promener dans les coins, d'entendre les propos dégoûtants des consommateurs avec qui elle ne voulait pas boire et les rebuffades de la cabaretière, c'était trop pour son courage. Elle pleurait à cœur débordant, se baissant le plus qu'elle pouvait sur les carreaux ruisselants pour cacher ses larmes. Elle se rappelait, car attend tout, le travail était joyeux. Ses frères, ses sœurs n'avaient pas l'angoisse de vivre. Ils se levaient tranquilles le matin, peinaient, il est vrai, mais pour eux et chez eux, ne manquaient de rien, sans jamais se douter du bonheur qu'on a de travailler en liberté et de manger son pain. Au bout de 15 jours, courbaturée, les yeux creux, les mains rouges et gercées, elle s'en alla. La cabaretière essaya de l'amadouer. Si elle ne refusait pas les consommations qu'on lui offrait, elle resterait toute la journée dans la salle de débit comme serveuse. Puis il y avait des clients généreux qui... Angèle demanda ses 15 francs. Elle ne s'indignait plus. Il lui semblait que tous la poussaient à la prostitution. La cabaretière lui rappela qu'elle avait cassé un verre et lui retint 3 sous. « Vous avez tort, ma petite. Vous savez bien qu'une femme seule ne peut pas vivre. Il y en a assez qui ne demanderont pas mieux. » Ne pas pouvoir vivre. Elle se répétait ces mots en s'en retournant chez elle. La cabaretière avait raison. Employer ses bras lui parut une chose impossible. Il n'y a que des gens favorisés qui gagnent leur vie en travaillant. Elle passait en revue les femmes du quartier. La plupart, mariées, ne s'occupaient que de leur ménage. Quelques veuves tenaient de petites boutiques d'épicerie ou de mercerie et vivotaient. Des ouvrières de métier, couturières et repasseuses, en ne perdant pas une heure de la semaine, arrivaient à joindre les deux bouts. Pour les femmes sans profession, qui habitaient seules, c'était ou la besogne écrasante, mal payée, ou la prostitution, parfois les deux. Les 15 francs furent vite dépensés. Elle devait une semaine de loyer. Elle se décida à suivre Blanche Capiot. 3 soirs de suite, elle l'accompagna sur les boulevards. 3 fois, elle revint en pleurant, disant qu'elle ne voulait pas, tremblant lorsqu'un promeneur s'approchait d'elle. « Si tu n'oses raccrocher, dit Blanche, prends une lettre à ta main et va au bureau de poste vers 7 heures du soir. C'est le moment où l'on peut faire quelque chose. » Chaque jour de la semaine, elle s'y rendit, mais elle marchait vite, ne regardait pas les passants. Revenait plus vite, heureuse comme si elle avait échappé à un danger, et le cœur serré à la pensée de s'endetter de plus en plus. Un soir, elle fut suivie par un vieux monsieur, élégant, l'air très digne. Pourquoi hésiter plus longtemps? Madame Ruider ne pouvait la loger et la nourrir indéfiniment sans être payée. Elle se disait « Je m'arrêterai en face du kiosque ». Et lorsqu'elle l'eut passé, « En face de l'épicerie ». Mais on se trouvait là en pleine lumière, au coin de la rue. Enfin, toute pâle, elle se retourna. Le vieux avait disparu. Le lendemain, elle le revit à la même heure, et comme elle avait pleuré une partie de la nuit, s'enhardit à lui sourire. Il souleva son chapeau et l'invita à dîner. Elle voulut refuser, disant qu'elle avait mangé. « Je vous en prie, dit-il, venez quand même, ça me donnera appétit. » Ils se rendirent dans un restaurant des boulevards. Lorsqu'elle lui eut raconté qu'elle était demoiselle de magasin à la ville de Paris, il promit d'aller l'attendre le lendemain à la sortie de 6 heures. Elle se rappela à temps que les magasins fermaient à 7 heures et plaisanta le vieillard qui voulait l'attraper. Il lui glissa 20 francs dans un gant. Toute heureuse, elle rentra chez elle en serrant dans la main son louis. Le lendemain, le vieux lui parla avec tant de bonté qu'elle se livra à lui sans trop de dégoût. En 2 soirées, elle avait gagné 40 francs. Ses dettes étaient payées. Elle offrit une tournée à Blanche Capiot qui lui donna quelques conseils. « Fais-toi toujours payer d'avance. Mets ton argent dans tes bas. Quand il y a du tirage, crie tant que tu peux, les hommes ont peur de ça. » À la 3e bouteille de stout, Angèle convint qu'elle avait été sotte de tant barguigner. Le vieux venait 2 fois par semaine à heure fixe et se montrait pour elle plein de prévenance et d'égards. La jeune femme se levait tard, passait ses journées dans l'épicerie à papoter avec Blanche et Madame Ruider. Elles mangeaient souvent ensemble, s'offraient des tournées, le café, se racontaient leurs rêves. Blanche, qui était cartée, parlait des rafles, des nuits au violon, de la sauvagerie des agents des mœurs, de ses clients, des rixes dans les cabarets de nuit où au moindre mot sortent les revolvers et les couteaux. L'épicière écoutait, bouche ouverte, les mêmes histoires 100 fois racontées. Angèle avait un peu peur. Conseillée par sa logeuse, elle envoya un mot à son vieux, au restaurant, où parfois elle allait dîner avec lui. Elle se disait malade et sans argent. 3 fois elle écrivit. 3 fois elle reçut, avec un billet de 20 francs, une lettre amicale que les 2 femmes lisaient en s'esclaffant. La 4e fois, il ne répondit pas et ne revint plus. Quand elle fut sans un sou, qu'il lui fallut descendre sur le trottoir, elle regretta d'avoir exploité son vieux client, qui pendant 2 mois lui avait assuré son pain. Les filles publiques, se doutant qu'elles n'étaient pas cartées et maraudaient à leur détriment, menaçait de la dénoncer aux agents. Debout près de l'aubette des tramways, elle tremblait à l'approche des passants, craignant les filles, les apaches, les agents des mœurs. Puis elle se rendait au bureau de poste, à la descente des trains de France. Le mercredi, jour du marché de Bruxelles, elle s'asseyait à partir de 4 heures à la terrasse d'un café près de la Bourse. Elle rencontra des Parisiens qui lui faisaient boire du vin. Des Allemands qui, pendant une soirée, vous tiennent d'insipides conversations pour se perfectionner dans l'étude du français. Des commis voyageurs de tout pays qui restent jusqu'au matin pour rattraper sur l'argent qu'ils donnent aux filles le prix de la chambre qu'ils auraient payé à l'hôtel. Elle connut bientôt les filles qui rôdaient de la gare du Midi à la place Hansen. Elles formaient 2 groupes isolés et hostiles. Les filles soumises, auxquelles la police délivre des cartes spéciales, se tenaient autour des pelouses de la place de la Constitution. En cheveux, les mains dans les poches de leur petit tablier, elles appelaient les passants, et quand ils ne s'arrêtaient pas, les engueulaient. Elles entretenaient un troupeau de souteneurs qui parfois venaient surveiller le travail, et le plus souvent faisaient jusqu'à 3 heures du matin des parties de manille dans les caboulots du boulevard Anspar ou de la place Barra. C'est là qu'ils recevaient l'argent que les filles tiraient de leurs bas avec fierté. Après avoir embrassé leurs hommes, qui n'interrompaient pas leur partie, elles vidaient un verre et retournaient à la rue. L'autre groupe était celui des prostituées en chapeau, qui, ayant échappé jusqu'alors aux rafles de la police, n'avaient ni carte ni itinéraire fixe. La plus connue était Maria, une Hollandaise maigriotte, plate, au visage cireux, fendu d'une bouche en ouverture de tirelire. Jamais elle n'avait été inquiétée, parce qu'elle recevait un agent des mœurs une fois par semaine, lui payait à dîner et lui donnait 100 sous. Elle marchait lentement, mais sans jamais s'arrêter, bizarrement accoutrée avec son chapeau marquis à 3 gouttières, son imperméable en toile d'emballage et son parapluie, invariablement serré sous le bras droit. La chipeuse et la baronne Pinsec étaient 2 redoutables entôleuses, ayant l'injure facile, qui au moindre prétexte se servaient comme de masse d'armes de leur lourd trousseau de clés, toujours dans le fond de leur poche. Elles méprisaient Blanche Capiot et Milka, une petite luxembourgeoise qui ne tutoyait personne, et les traitait de ménagères et de lessiveuses. Par jalousie et par nécessité professionnelle, elles s'évitaient, cherchaient à se chiper leurs clients, ne s'accordant que pour mentir à la police et chasser les nouvelles arrivantes. Au bout d'une semaine, celles-ci étaient cartées ou quittaient Bruxelles, car Maria se chargeait de les signaler à son agent, qui se montrait d'autant plus impitoyable que ses 100 sous étaient en jeu, et qu'il cherchait à gagner l'estime de ses chefs. Angèle se tenait sur ses gardes. D'ailleurs, elle s'enhardissait. Elle savait jeter au visage du passant, comme un grappin, le regard provoquant des filles, roulait la croupe en marchant, souriait en souhaitant le bonsoir aux promeneurs indécis, débattait son prix au coin des rues, et, dans sa chambre, insistait pour que le client payât une bouteille de vin ou de stout, qu'elle conservait pour son déjeuner du lendemain. Un soir de brouillard, elle avait fait plusieurs fois le tour des boulevards et de la place de la Constitution sans pouvoir arrêter un passant, lorsqu'elle avisa un grand jeune homme qui fumait une cigarette sous le promenoir de la gare du Midi. « Quel brouillard, monsieur !» Après quelques mots insignifiants, il lui offrit 5 francs et déjà lui prenait le bras, lorsque Blanche Capiot, qui arrivait, passa derrière elle et lui souffla. « C'est un agent !» Terrifiée, elle fit un saut en arrière, se dégagea de la poigne de l'inspecteur, se sauva dans la foule des voyageurs qu'un train venait de déverser, où il n'osa la poursuivre. Elle l'entendit qui la menaçait, disant que son compte était bon, qu'elle se souviendrait de lui. Elle fut 2 jours sans sortir. Le 3e, elle ne se décida à descendre qu'après minuit. Comme elle passait sur la place Barra, sa vue fut attirée par un ivrogne qui faisait de grands gestes. C'était un capitaine de lanciers en grande tenue, qui, après avoir gagné beaucoup d'argent aux courses, avait fait la noce et s'obstinait à chercher la gare du Midi. Il tendit 20 francs à Angèle, balbutiant. « Demain, à 5 heures, demain !» Titubant, il se laissa conduire, se coucha à demi déshabillé et se mit à ronfler. Son portefeuille était tombé à terre, bourré de billets et de louis. Elle le ramassa, le plaça dans la poche intérieure du dolman, qu'elle ferma d'une épingle de sûreté. Navrée, elle s'assit dans son fauteuil. Elle avait cru comprendre que l'officier devait prendre le train pour Namur à 5 heures du matin. Quand il eut dormi 2 heures, elle l'appela, le secoua. Plus ivre encore, il se leva, revêtit son uniforme qu'il boutonna minutieusement, répétant « Demain, 5 heures ». Angèle le conduisit à la gare du Midi. L'air frais du matin le dégrisa un peu. Il retrouva son billet de chemin de fer, et après avoir pris l'adresse de la jeune femme, se fit raide, ne prononça plus une parole. Arrivé à la gare, il salua militairement et disparut. 2 jours après, Angèle préparait son café de midi lorsque Madame Ruidère lui cria qu'un monsieur la demandait. C'était le capitaine de Lancier en civil qui venait lui rendre visite. Monté dans la chambre, il s'excusa de s'être conduit comme un charretier. Il avait eu une fameuse chance de tomber sur une brave fille comme elle. 12 000 francs dans son portefeuille. Avec une sueur froide, il songe soudain à sa petite fortune pendant le trajet et la retrouve dans sa poche soigneusement épinglée. Et s'il avait manqué le train, lui qui était attendu par ses chefs à Namur? Il la remercia, lui offrit un sac de voyage élégant, promit de venir chez elle une fois par semaine et de l'emmener dîner en ville. Elle acheta un peu de vaisselle, fit sa cuisine elle-même, dépensant très peu pour ne sortir que le moins possible. D'ailleurs, elle commençait à être connue dans le quartier, et des hommes posés, sachant qu'elle n'était point bavarde, s'esquivaient de temps en temps du foyer conjugal pour savourer quelques quarts d'heure de plaisir défendu. Lorsqu'ils partaient, la jeune femme ne pouvait s'empêcher de rire. L'un se brossait soigneusement, craignant qu'un cheveu blond ne fût resté sur son veston. Malgré la nuit noire, un autre exigeait qu'Angèle se tînt un moment sur la porte et lui assura qu'il n'y avait dans la rue aucun passant. En sortant, le libraire du coin courait chez le coiffeur. Le parfum de la friction masquait l'odeur du lit de la fille. Tous payaient d'avance, faisaient sonner leurs 100 sous sur le marbre du lavabo. La complimentaient de la distinction de ses manières, de sa discrétion, craignant toujours quelque esclandre ou quelque contestation. Elle passa ainsi tranquillement l'hiver, heureuse de rester chez elle de longues heures, inactive, sans songer à lire ou à travailler. Parfois elle se disait « Il y a un an, je faisais ceci ». Je faisais cela. Se rappelant le passé sans regret, sans émotion. Si elle pensait à la vie que pendant 3 ans elle avait vécue avec son amant, c'était avec la satisfaction d'en être délivrée et l'amertume d'avoir souffert injustement. Si déprise de lui que pendant 8 mois, elle n'avait pas cherché à savoir comment il vivait à Londres. Un matin qu'elle passait sur la place de Brouckère, elle entra dans la librairie où la femme de Gaston avait été employée. Et se donna comme une amie de la jeune femme. Elle a fait une fameuse sottise le jour où elle a quitté le magasin pour suivre cet individu. Ils sont à Londres, n'est-ce pas? Ou au diable! Il y a 1 mois, elle a écrit à son père une lettre non affranchie, pour demander de l'argent. Oui, ils étaient sur le pavé. Et n'avaient plus qu'à se jeter à l'eau. Bon, vous êtes au courant, elle demandait donc 300 francs. Oui, oui, 300 francs, murmura Angèle qui se souvenait. Le père a envoyé 30 francs. Elle a répondu pour le remercier en l'informant que son mari, abandonné par ses parents, était gravement malade. Depuis lors, il leur fait parvenir 20 francs par semaine. Pauvre fille, elle ne méritait pas ça. Angèle sortit, n'arrivant pas à plaindre celui qui avait été son amant. Et même au bout de quelques minutes, se mit à respirer plus largement, comme si elle avait échappé à un danger.